Hill, Kiz Thomas, down, down, double down!
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canu 102.2. Alors aujourd'hui nous recevons la coalition Climat Rhône, donc Michel et Maxime, bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle qu'on avait déjà invité la coalition Climat il y a un peu plus d'un an. Et on avait eu d'ailleurs deux émissions en octobre 2017 sur la question du climat. Nous avions eu Maxime Combes qui nous avait parlé de la COP 2023, de la loi Hulot sur la question des énergies fossiles. Et donc la coalition Climat Rhône, donc pour un sujet plus local, hein, c'est aussi le but de Radio Canu, parce que allait se dérouler en novembre 2017 un forum citoyen sur le plan climat de la métropole de Lyon. Donc l'idée c'est de rappeler peut-être voilà que vous présentiez, de rappeler qui est la coalition rôle, qui la compose, quels sont ses objectifs et ses actions, puis on y reviendra tout le long de l'émission, et puis dire également un petit peu refaire un état des lieux de aujourd'hui un peu à tous les niveaux aussi international, gouvernement et local des actes ou justement des actes qui n'ont pas eu lieu, et puis de dire également ce qui se passe au niveau local, de ce qu'a créé ce forum.
Oui, bonsoir. Donc Michel, la coalition climat au titre d'attaque. La coalition climat s'est créée en février-mars 2016, après donc les grandes mobilisations qui avaient eu lieu à l'occasion de la COP21 qui a débouché sur l'accord de Paris en décembre 2015. Grande mobilisation qui a été un peu perturbée par les difficultés des manifestations suite aux attentats, mais avec quand même une grande mobilisation tout au long de l'année 2015, notamment à Lyon. On a été plusieurs en février-mars à proposer une suite, mais une suite différente, puisqu'il s'agissait plus de préparer une COP 22, ou pourquoi pas, mais on a décidé de se mobiliser davantage sur la question du climat au niveau local, notamment face au plan climat de la métropole, ce qui a conduit la coalition qui regroupe une douzaine d'associations, dont ATTAC, dont les Amis de la Terre, dont Greenpeace, dont CCFD, dont la CFDT et d'autres, Alternatiba aussi maintenant, ont travaillé d'abord sur le plan climat qui était en cours à ce moment-là, sur les résultats 2015.
Quand tu dis en cours, est-ce qu'on peut rappeler un peu les échéances du plan
climat? Les échéances, le plan actuel, c'est 2013, fin 2019. Et actuellement, on est dans la préparation, c'est pour ça qu'on appelle ce soir, notamment grâce à cette émission et à d'autres actions, à la mobilisation citoyenne, parce que on est rentré depuis quelque temps dans la préparation du prochain plan air, énergie, climat, territoire, qui doit débuter en 2020 jusqu'en 2030. Alors ces plans climat sont imposés par la réglementation européenne, chaque collectivité de plus de 50 000 habitants devant élaborer son plan ou chaque unité partie prenante de cette unité. Donc la conclusion qu'on a de nos premiers examens du plan climat qui était en cours en 2016, c'était il y a des choses intéressantes, mais il y a deux choses qui vont pas, c'est pas assez énergique, les propositions sont pas assez fortes, et surtout, les citoyens ne sont pas assez mobilisés. C'est sur cette base que la coalition a travaillé tout au long de 2016 et 2017, pour élaborer des propositions qui ont été donc présentées, élaborer des propositions coalition et d'autres militants qui se sont joints dans les préparations du forum de novembre 2017, qui a eu un assez grand succès, 130 personnes à la salle Jean Couty, avec des gens très motivés dans les ateliers, qui ont permis donc d'améliorer les propositions qui avaient d'abord été élaborées par la coalition, par des groupes de travail, propositions qui ont été transmises à la métropole, notamment à l'adjoint qui s'occupe de ça, Bruno Charles, qui ont trouvé ces propositions intéressantes. Du coup, la coalition a continué de travailler avec d'autres, notamment davantage de camarades de militants d'Alternatiba, qui ont élaboré donc ce manifeste sur des bases de la coalition climat, des groupes de travail, etc.
Vous dites que la métropole a bien accueilli les propositions, vous continuez à travailler, mais cela va sans dire, la coalition reste complètement indépendante.
Bien sûr. Alors, dans le point suivant, Maxime présentera effectivement les relations actuelles avec la métropole, parce qu'elles ont bougé pour différentes raisons. Peut-être qu'avant, on peut rappeler le contexte climatique qui, lui, est au-delà du niveau local, appelle à la mobilisation de tous les citoyens dans toutes les facettes de l'activité possible. Donc, premier point, ce qui nous réunit ce soir, ici et dans d'autres endroits, c'est la gravité de la situation climatique. Depuis l'accord de Paris, qui avait été jugé insuffisant parce que non obligatoire, intéressant par le niveau d'engagement, mais sans obligation, on a continué à dégager davantage de gaz à effet de serre. Donc, la situation, au lieu de s'améliorer par rapport depuis l'accord de Paris, elle s'est au contraire dégradée. On continue à émettre davantage de CO2 alors qu'il faudrait avoir, depuis l'accord de Paris 2015, stabilisé et réduit les émissions. Actuellement, à l'échelle internationale, parmi les 195 pays qui ont signé l'accord de Paris, 17 seulement, qui représentent 10% des émissions de gaz à effet de serre, sont en stabiliser ou réduire leurs émissions. Donc on continue d'émettre davantage de CO2 qu'il en faudrait. On continue et on est sur une tendance d'accroissement des énergies fossiles. Au lieu de les réduire, on continue sur une tendance qui est complètement catastrophique. Le GIEC a sorti son rapport récemment en disant « il est encore temps ». Nous, on a tendance à dire, militants du climat, on est vraiment dans une situation où peut-être qu'il est encore temps. Mais pour que cet encore temps se réalise, il faut vraiment que tout le monde, tous les pays, tous les États, toutes les sociétés s'organisent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, changent de système. Je rappellerai le mot d'ordre de 2015, changer de système, pas le climat. Le climat change et le système continue d'être ce qu'il était. Donc il faut vraiment s'emparer de cette question climatique. Il y a toute une série de chercheurs qui, encore dans le monde d'hier et dans plein de journaux, donnent la gravité de la situation. Au-delà de l'émission, de la quantité de gaz à effet de serre émise, il faut bien prendre en compte que selon les pays, selon les catégories sociales, les effets en termes de dégradation des conditions de vie de production se sont très graves dans un certain nombre de zones, que ça, notamment les zones tropicales, où avec les tempêtes, avec la dégradation des sols, etc. La question, on a affaire non seulement à une dégradation globale à l'échelle de l'humanité, mais il faut prendre conscience que cette dégradation est très forte pour les couches populaires et pour les pays les plus pauvres en situation difficile. Donc effectivement, et il faut noter aussi que les États n'ont pas rien fait depuis 2015, sauf continuer à se dégrader la situation, mais qu'également les mouvements citoyens n'ont pas énormément fait de choses, notamment en France, où en 2015, il y avait eu beaucoup de choses. Il faut rappeler, on en reparlera tout à l'heure, que heureusement que les marches sont arrivées avec beaucoup de monde en septembre et en octobre 2018, et qu'il va y en avoir d'autres qui vont continuer, parce que effectivement, il était temps que la mobilisation citoyenne se réveille, et on espère que cette mobilisation citoyenne se traduira, y compris par la mobilisation des citoyens à tous les niveaux, au niveau local, national et international. Voilà ce que je voulais dire en introduction par rapport à la situation. Je rappelle aussi qu'on a une COP, c'est-à-dire une conférence climatique en décembre à Katowice, en Pologne, la capitale du charbon.
Et qu'on n'en a pas encore beaucoup entendu parler.
Si ça commence. Oui. Mais qui devrait augmenter les engagements des prix à Paris, mais vu ce qui se passe, j'entendais tout à l'heure un scientifique qui disait, vu ce qui s'est passé depuis 2015, on voit mal les pays à la COP24 augmenter leurs engagements de réduction des gaz à effet de serre. Donc on est dans une situation absolument catastrophique, et ce qui se passe au niveau local, qui pourrait être intéressant, est encore loin d'être satisfaisant, mais là on verra ça dans le point de vue.
Donc, la question d'ailleurs des plus 2 degrés là, donc de l'accord de Paris, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les scientifiques, je pense que c'est le GIEC qui assure un peu le suivi des données, est-ce qu'il est tenu ou pas du tout aujourd'hui?
Il n'est pas tenu. Voilà. On n'est pas sur une tendance à tenir les 2 degrés. Et l'objectif de 2030, qui devait ne pas passer 2 degrés, il est dans les choux pour l'instant, si on n'accélère pas rapidement la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Et effectivement, il y a le suivi, comme on le disait, des engagements, regarder les émissions de gaz à effet de serre, et des choses qui ne relèvent pas des mesures, mais qui relèvent de la constatation. On a effectivement, cette dernière année, constaté un nombre impressionnant de dérèglements,
De risques climatiques très forts.
Et d'événements climatiques extrêmes, effectivement. Ouais. Que ce soit au niveau tropical, mais même ici.
Alors que quand il y a eu l'accord de Paris, on savait déjà compter dans les choux pour le 2 degrés, puisque les États sont venus avec des engagements lors de l'accord de Paris. Et quand on a additionné tous ces engagements, on s'est rendu compte que ça n'allait pas à la trajectoire 2 degrés. Mmh. Et donc, il a été demandé aux États de revoir tous leurs copies.
C'est l'objectif de 2024.
C'est ça, tous revoir leurs copies, sauf que pour l'instant, ils ne l'ont toujours pas revu. Et donc, on est toujours sur une base réglementaire qui, de toute façon, nous porte à plus 3 degrés, voire au-dessus.
Oui, on évoque cette urgence. Tu parlais des marches, et c'est effectivement là, depuis septembre, on a vu vraiment un mouvement, et puis avec une forte participation, mais on a quand même l'impression que le reste du temps, enfin, il y a quand même. On ne voit pas forcément une forte mobilisation, alors qu'il y a cette urgence dont tu parles.
Oui, et puis je reprendrai les deux mots qu'a posé Maxime Combes après la manifestation du 8 septembre. On a deux questions à affronter, que ce soit les organisations, les militants ou les organisations politiques, qui sont beaucoup trop absentes d'ailleurs sur cette question, c'est quelle stratégie de mobilisation et de lutte contre les États, etc., contre les entreprises et tout, quelle stratégie de lutte et quelle structure, quelle organisation, et éventuellement au pluriel. On est notamment en France actuellement, on est en défaillance sur ces deux questions. Les marches renouvellent ces deux questions, quelle stratégie de lutte, etc., et quelles organisations.
Parce que, on l'avait déjà évoqué lors des précédentes émissions, il y a une véritable opportunité avec la réflexion sur le climat, comme elle est globale, de décloisonner des luttes où chacun un peu avait sa stratégie de lutte dans son coin et sa spécialisation, la mobilité, l'énergie, l'alimentation. Et là, on voit quand même que ça permet de décloisonner et de travailler ensemble.
C'est le gros avantage de la mobilisation sur le climat, en plus de l'urgence, c'est qu'effectivement, ça implique les citoyens dans tous les aspects de leur existence, ça implique tous les niveaux politiques, ça implique les organisations associatives, ça implique les syndicats, les partis politiques, c'est-à-dire l'ensemble de la société. Et pour moi, effectivement, comme tu le dis, la coalition climat, la mobilisation climat est une urgence et une mobilisation fédérative.
Et du coup, on attend que tout le monde se mette autour de la table pour discuter, et chacun doit prendre ses responsabilités, que ça soit à l'échelle du citoyen aussi, mais de toutes les structures. Donc on va parler des organisations syndicales, donc il y a toutes les entreprises qui doivent prendre position aussi, venir autour de la table et amener des propositions.
Oui, est-ce qu'on pourrait revenir justement sur, on parlait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu voir comme engagement ou justement comme démobilisation à ces différents niveaux
Depuis 2015 ou récemment?
Depuis un an, depuis notre dernière rencontre.
Bah évidemment, il y a le retrait, mais ça c'est 2016, 2017, c'est le retrait des États-Unis de l'accord international, ce qui fait que tous les pays disent, bon, ces États-Unis, premier pollueur, maintenant c'est la Chine, n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a ça qui joue qui porte un très gros défaut au niveau international, parce que la question climatique, elle est par définition planétaire. Il y a effectivement le gouvernement français qui fait des bricoles. Nicolas Hulot a démissionné parce que les petits pas ne suffisaient pas. Oui, effectivement, même les petits pas n'étaient pas suffisants. Il ne suffit pas de faire des grands pas. Il faut effectivement, comme le dit Maxime, il faut qu'effectivement il y ait un engagement complet de l'ensemble des forces pour que ça bouge, quoi. Il ne suffit pas de réglementer, il faut changer de comportement dans les entreprises, dans nos modes de déplacement, dans tous les trucs.
Après, moi, je ressens quand même pas mal de changements en termes de niveau citoyen, puisqu'on sent une prise de conscience accrue. Notamment, je pense, chez les jeunes, où on voit qu'il y a... Enfin, de toute façon, c'est rentré dans les programmes éducatifs aussi. Donc, il y a des gens qui se mobilisent dans les associations pour voir d'autres modes de vie. On pense à l'émergence du zéro déchet. Et ensuite, il y a des mobilisations qui commencent à montrer vraiment toutes les alternatives. Ça, c'est un peu le message d'Alternativa, c'est de dire les alternatives, elles existent, en fait. Et maintenant, il faut aller vers ces alternatives et les développer. Et donc, par exemple, cet été, il y a eu pas mal de tours vélo, dont celui du Tour Alternativa, qui a été plus de 200 étapes en France. On a sensibilisé plus de 77 000 personnes. On a fait des formations à la désobéissance civile. Et tout ça, ce contexte, avec plein d'associations autour, des scientifiques, des conférences, ça participe aussi à la sensibilisation du grand public et ça prépare aussi à un engagement peut-être plus fort et réclamer des choses au sein de son entreprise, dans sa famille et au niveau des collectivités.
Et on l'a constaté d'ailleurs il y a quelques temps, c'était fin septembre, on a invité Zéro Déchet et Mouvement de Palier, justement sur ces questions du zéro déchet. Et on voit aussi l'intérêt de la diffusion avec des formations et des citoyens aussi qui s'engagent non seulement effectivement, chez eux, dans leur famille, mais également dans les entreprises. Parce que c'est vrai que c'est dans les entreprises aussi qu'on consomme beaucoup d'énergie et autres.
Alors ces initiatives sont très intéressantes à divers points de vue, à la fois parce que elles portent des effets concrets et elles permettent effectivement une mobilisation et elles sont pour nous, coalition, un élément essentiel du rapport de force par rapport à la métropole, par exemple. Sur tous les aspects, on veut être à la fois apporter des propositions dans le manifeste ou dans d'autres textes qu'on a sortis, mais on veut aussi que ces alternatives concrètes nourrissent ces propositions et établissent le rapport de force avec la métropole. Ceci étant, ces alternatives aussi nombreuses et aussi fortes soient-elles, ne régleront pas le problème, y compris au niveau local et au niveau national, parce qu'il y a effectivement besoin de choix globaux, politiques, économiques, etc., que les alternatives préparent, mais qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Il faut que tout le monde, comme disait Maxime aussi, il faut que ces alternatives soient relayées et beaucoup plus que relayées, et qu'elles s'intègrent dans un processus beaucoup plus global et général. Mais bon, ces alternatives sont, pour ce qu'elles sont, déjà très importantes. Mais il faut que, justement, il y ait une réflexion politique au sens global sur comment on se bat sur le climat. Je reprends les deux termes de stratégie et quelle organisation qu'a développé Maxime Combe après la manifestation du 8 septembre.
Je pense qu'en prise de conscience aussi, il commence à y avoir une prise de conscience aussi au niveau des élus. Par exemple, David Kimmeffel qui disait dans une des tribunes d'un journal lyonnais, il y a 5 ans on rigolait encore des écologistes, maintenant on commence à perdre le sourire. Donc il y a des étincelles aussi qui commencent à arriver. Après, c'est qu'ils sont encore au début de leur conscientisation et c'est à nous, associations, d'aller vers eux et de leur montrer la réalité du terrain et le message qui est porté depuis longtemps par de nombreuses structures.
Et justement, quand on parle métropole de Lyon, donc il y a effectivement l'obligation réglementaire de faire ce fameux plan climat, air, énergie territorial. Mais justement, est-ce qu'on peut revenir sur quel est le rôle, quels sont les leviers, justement, les collectivités locales, d'ailleurs que ce soit la métropole ou une autre, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de par leurs compétences et quelles responsabilités elles ont? Responsabilité dans les deux sens, hein, dans leurs compétences et aussi la responsabilité collective sur le changement climatique.
Je pense qu'elles ont déjà un rôle d'animateur du territoire. C'est censé être elles qui ont une vision globale et qui permettent de mettre en relation tous les acteurs pour instaurer une véritable politique commune et coordonnée. Donc ça, je pense que c'est la première étape et c'est nous là-dessus où on dit vous pouvez être levier auprès de tout le monde parce que c'est à vous de donner le cap de ce territoire en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est après, en termes de véritablement pouvoir, par exemple, de faire des décrets, des choses comme ça, déjà, ils ont un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire sur tous leurs bâtiments, sur toutes leurs pratiques, de montrer l'exemple vraiment et de montrer à tous que c'est possible. Ensuite, la métropole, c'est une structure, mais du coup, il y a toutes les mairies qui sont en dessous, qui peuvent, elles aussi, avoir une attitude exemplaire. On a un rôle de la métropole de pouvoir aller sensibiliser les citoyens avec de nombreux canaux de communication. Et puis, on a le rôle de la discussion avec les entreprises pour proposer des mesures et amener à changer le territoire.
Oui, il faut voir effectivement, dans le complément de ce que dit par rapport au rôle de la métropole que dit Maxime, qui est tout à fait juste, c'est que le plan climat de la métropole, c'est une somme d'émissions de gaz à effet de serre émises par la métropole dans son bâtiment, dans ses activités, etc., dans ce que font les citoyens dans leurs activités et ce que font les entreprises. Les entreprises étant l'essentiel des émissions, même si la crise économique a beaucoup réduit la capacité des entreprises. Tout le monde travaille à quelque chose. Il y a peu d'entreprises qui sont pas... Comme disait Maxime, la prise de conscience est forte chez les jeunes, mais elle commence également à être forte chez les élus, et y compris des entreprises. Il y a des entreprises qui se rendent compte qu'elles ont intérêt, parce qu'elles payent.
Oui, consommer de l'énergie, l'énergie est de plus en plus chère.
Elle est de plus en plus chère, mais elles payent des taxes si elles ne respectent pas leurs droits d'émission. Donc tout ça concourt à quelque chose. Le problème, c'est que ça ne va pas assez vite. dans les transformations des façons de produire, dans les façons de se déplacer, etc. Et Lyon, là-dessus, n'est pas la ville la plus en retard de France, mais justement, il faut en profiter pour accélérer. Donc, c'est, et là où il y a un changement assez sensible dans qui correspond, ce qu'a fait la coalition depuis 2016 a montré que les citoyens étaient en capacité de produire des choses. De mobiliser des habitants et de produire des propositions. On a produit sur 4 thèmes, on n'a pas tout couvert parce qu'on ne pouvait pas. Ça a rendu les associations crédibles vis-à-vis de la métropole et partenaires de l'élaboration. Là-dessus sont venues les marches et le changement de président, qui fait qu'on est dans un contexte, effectivement, sur Lyon, la métropole de Lyon, plus positif que l'année dernière. Parce qu'il y a la prise de conscience, il y a les marches et le changement de l'équipe du président. Et ce qu'on faisait avant avec Bruno Charles, qui était le vice-président chargé du climat, on le fait maintenant avec David Kimmelfeld, qui prend en compte Alors justement, ce qu'on attend, nous, c'est ce qu'on attend en partie, puisqu'on continue de travailler, c'est la grande soirée que doit organiser la métropole le 13 décembre pour présenter ses objectifs en matière de plan climat et mobiliser les citoyens, alors sur une forme qu'on ne connaît pas encore. Et nous, ce à quoi on fait attention, c'est de ne pas être... j'arrive pas...
Instrumentalisé
par... que la métropole nous dise, vous, les associations, là, aidez-nous à mobiliser les citoyens. Non, oui. Nous, on veut bien mobiliser les citoyens, mais aussi... porter et faire passer nos propositions concrètes sur les transports, sur les déplacements, sur l'énergie, sur les bâtiments, l'alimentation, etc., qu'on a élaboré. Donc, on veut participer, mais pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se passer.
Oui,
donc,
on est
dans une situation où, effectivement, on a un certain espace qui s'est ouvert suite aux travaux, suite aux marches, à ce qu'a fait Alternativa, à ce que font les associations, etc. Donc on est dans un contexte plutôt favorable, mais qui est un contexte quand même assez macronien, osons le dire. Donc c'est pas gagné d'avance, quoi.
Peut-être revenir sur le détail, quelle était la situation juste avant les mobilisations et la démission de Hulot, et comment ça s'est transformé, est-ce qu'on a pu remporter peut-être par les marches, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très visible. On commence par une situation avec la métropole où on a quand même des difficultés à discuter avec eux, à nous présenter les propositions. On ne sait pas trop quel va être le calendrier d'élaboration du plan climat. A priori, ils étaient plutôt partis sur une reproduction de ce qui avait déjà été prévu et plutôt de remettre à jour les données, recontacter les mêmes entreprises. Donc quelque chose qui est très dans la continuité. Et...
Justement, on a fortement critiqué en tant que coalition climat. Ouais.
Sur ces difficultés, est-ce que vous avez eu quand même en amont un peu des discussions avec la métropole qui vous dit, ben moi, compte tenu de ce que je peux faire ou sais faire, je pense à ses compétences, ben, par exemple en urbanisme pour organiser le territoire, sur organisation des transports, sur aussi la question de la rénovation énergétique, puisqu'ils portent aussi ces questions-là. Est-ce qu'ils vous ont dit, ben là, c'est là-dessus que je sais que je peux bouger et c'est là-dessus que on peut se rencontrer si vous faites des propositions?
Les discussions n'allaient pas jusque-là, parce qu'il y avait, en fait, il faut voir qu'il n'y avait pas de commande politique d'impliquer les citoyens dans l'élaboration de ce plan climat. Mm-hmm. C'est-à-dire que qui était consulté et à qui on demandait l'avis, c'est ceux qui étaient en capacité de réduire concrètement les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Donc on allait voir les entreprises, donc on allait voir les collectivités, mais on n'allait pas chercher l'avis des citoyens qui pouvaient avoir un avis soit pour réduire les propres consommations des citoyens, mais aussi qui ont des propositions au global comment réduire les gaz à effet de serre. Enfin, et ce qu'on a montré avec la coalition climat, sur toutes les thématiques, on a des choses à apporter et qu'il faudrait qu'ils soient écoutés. C'est ça, ce qui a été fait après le forum. On a des propositions, et ça, il faudrait que tout le monde puisse les entendre et que la métropole soit ouverte à les entendre. Et actuellement, on n'avait pas d'espace de discussion avec eux. Et ça, c'était la situation, du coup, jusqu'en septembre, après les marches.
Un peu avant, quand même.
Ouais. Donc,
mais c'est surtout avec les marches que
c'est ça.
Bougé.
Puisque, du coup, démission de Nicolas Hulot. Sur Lyon, pas mal les organisations qui se sont rassemblées avec l'appui aussi de la chaîne Partager c'est sympa, une chaîne YouTube qui cherche à mobiliser les citoyens justement sur ces questions climatiques. Donc on est allé sur des événements un peu innovants, grand public, qui ont été très familiaux. Et qui nous ont permis, puisqu'on était en lien avec des organisations, la Coalition Climat, qui avait déjà des campagnes de plaidoyer en cours auprès de la métropole, de rencontrer le président de la métropole et de rediscuter avec ce nouveau rapport de force et ces nouveaux éléments. Et donc cette première mobilisation, ça a permis d'obtenir un changement de cap, puisque David Kimmefel, président de la métropole, a dit « Ok, maintenant on va chercher à impliquer davantage les citoyens. » Et là, on est en train de construire avec eux comment va se faire cette implication, puisque quand on parle d'implication citoyenne, il y a plusieurs choses et il faut les distinguer.
Oui, et puis comme vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas là pour faire commandité par la métropole pour animer. Par contre, l'implication citoyenne, elle crée ce rapport de force.
Oui, voilà. C'est ça. Mais du coup, faut y voir différentes choses quand on parle de mesures d'implication citoyenne. Il y a le côté comment la métropole peut sensibiliser les citoyens, faire des campagnes de com pour qu'ils changent leurs activités. Mais nous, notre position à la coalition climat, c'est de dire, si vous voulez qu'il y ait une forte adhésion à vos campagnes de com et tout ça, il faut réfléchir les actions avec eux déjà, que vous ayez le soutien de tout le tissu associatif et des citoyens. Donc, il faut les inclure dans l'élaboration de ce plan climat. Et donc, c'est ce qui est en train de se construire, puisqu'ils nous ont proposé des ateliers qui auront lieu au printemps 2019, où les associations pourraient être en face des entreprises, en face des collectivités, pour discuter d'actions à mener. Mais ça, c'est une première étape. Après, il faudra voir comment, dans le détail d'action, par exemple, comment on mène une campagne de sensibilisation auprès des citoyens. Ben là, ce serait bien qu'il y ait des citoyens qui puissent dire ben, moi, je pense qu'il faudrait plutôt agir comme ça. Moi, à ce moment-là, c'est pas la peine de venir me solliciter parce que je n'écouterai pas votre message. Par contre, à tel moment, c'est propice. Et il y a des choses à construire, justement, sur ces dispositifs avec les citoyens. Je pense que c'est une revendication forte de la coalition climat, vraiment que le citoyen soit intégré partout, et donc là, de l'élaboration, mais aussi au suivi des engagements. Parce qu'actuellement, il y a des points bilan réguliers qui sont faits dans la métropole par une conférence climat, et donc c'est les partenaires de cette conférence climat, donc ceux qui font des réductions de gaz à effet de serre, qui ont les informations, qui ont des rendez-vous avec la métropole et qui ont de la visibilité. Donc si on devient à nouveau une sorte, si on inclut les citoyens dans cet engagement, on peut avoir plus de suivi, plus de transparence aussi, et pouvoir réagir à temps.
Oui. Et le suivi, c'est pas pour le prochain, il y a déjà ce qui se fait aujourd'hui, il y a un plan qui se termine, et effectivement, tant qu'on n'a pas connaissance des données.
C'est quand même de booster la métropole sur le contenu du prochain plan. Oui, le suivi de ce qui se fait actuellement, c'est intéressant.
C'est de la transparence aussi.
Oui, c'est pour créer la transparence, mais l'enjeu, c'est de mettre des choses précises dans le prochain plan, avec effectivement un double rôle des citoyens et de leurs organisations. C'est un travail technique. Quand je dis technique, c'est pas au sens de détail, c'est faire entrer comme proposition dans le prochain plan climat, par exemple, on est porteur de propositions sur modification des politiques en matière d'économie d'énergie dans les logements. On a discuté avec Lyon Métropole Habitat, par exemple, et on veut que ces résultats des travaux préparatoires soient vraiment inscrits comme mesures concrètes pour accélérer la politique de rénovation énergétique des bâtiments. La même chose en alimentation, etc. Et d'autres choses sur les deux autres thèmes. Donc on veut être à la fois co-élaborateur et mobilisateur. Et pas seulement mobilisateur au service de la métropole.
Et les propositions, j'ai lu le manifeste, les propositions, c'est plutôt des propositions de comment faire. Voilà. Mais est-ce que les objectifs sont déjà fixés? Est-ce que les objectifs sont imposés à la métropole par la réglementation, ou est-ce qu'ils sont en cours de débat aussi?
Alors là, c'est là où il va y avoir la discussion, puisque la métropole est obligée de suivre une ligne réglementaire, c'est ce qu'elle fait, et on sait que du coup, ces objectifs au global nous mènent vers un monde à 3 degrés, donc ces objectifs ne respectent pas l'accord de Paris, et nous, on souhaite que la métropole s'aligne pour respecter l'accord de Paris, et donc ça nécessite de revoir ces objectifs, et c'est revoir ça fortement. Et c'est là où est toute la difficulté, c'est après comment on fait ces objectifs. Donc la position de la métropole pour l'instant, c'est nous, on va faire en sorte que l'objectif réglementaire, tout le monde s'engage autour de ça. Et pour aller plus loin, ils nous disent, vous, association, à vous de faire des propositions, à vous de convaincre les collectivités et les entreprises pour aller plus loin. Donc c'est là où on peut peut-être avoir des accords avec la métropole, puisqu'il faut aussi que la métropole soit ambitieuse, ait son rôle à jouer de levier, et qu'elle porte aussi cette ambition auprès de nous. Et c'est pour ça que, là, sur les discussions qui vont venir, nous, on ne sait pas encore exactement quel est le contexte de travail et quelle est l'ambition de la métropole. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien qu'il y ait aussi peut-être des mesures court terme sur certaines choses, des choses symboliques et fortes qui apparaissent là dans les prochains mois pour nous rassurer sur la nouvelle direction de la métropole. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a.
Ces actions de court terme,
par exemple, sur la pollution de l'air, là, il y a tout le débat qui est actuellement fait sur la zone de faible émission. Donc, c'est progressivement interdire l'utilisation de certains véhicules très polluants dans plutôt centre Lyon, Villeurbanne, Caluire, Bron. Et nous, le problème, c'est que on considère que cette zone de faible émission, déjà, est à nouveau pas très ambitieuse. Elle va commencer réellement qu'au 1er janvier 2020. Et nous, on a des mesures de dire il faut déjà réavancer. Il faut commencer à intégrer des véhicules particuliers. Parce que là, ce qui est en train de se dire, le problème, c'est qu'on demande à des véhicules utilitaires ou des poids lourds de se moderniser et d'acheter un nouveau véhicule. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer des autres alternatives à la voiture. Pour l'instant, on est en train d'interdire des véhicules de rentrer dans Lyon, mais on n'a pas de proposition construite par la métropole pour faire une alternative. Par exemple, dans la coalition climat apporte des idées sur le tram fret ou des choses comme ça, ou développer l'usage du vélo, puisqu'il y a des professionnels qui peuvent avoir des vélos cargo et tout ça, donc avec des primes
des petites voitures électriques.
Petites voitures électriques aussi. Enfin, ça se réfléchit, mais l'acteur où il y a déjà des alternatives, où il y a déjà des transports en commun, déjà des réseaux en vélo, c'est sur la voiture du particulier. Et là, il y a des choses à faire parce qu'il y a aussi... le but, c'est pas de punir les gens qui sont à l'extérieur de Lyon et qui essayent de rentrer, c'est de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent venir avec leur voiture jusqu'en centre urbain, avec les parkings relais, avec des transports en commun efficaces, avec des réseaux de trains efficaces, et surtout de limiter l'aspect utilisation de la voiture déraisonnée, parce qu'il y a un chiffre qui est peut-être pas assez connu, donc j'en profite aujourd'hui, mais sur les déplacements à destination de Lyon-Villeurbanne tous les matins, la moitié des véhicules, ce sont des véhicules qui partent de Lyon-Villeurbanne.
Enfin, la moitié des déplacements domicile-travail sont des déplacements courts qui se font pour la moitié en voiture sur un kilomètre.
Et donc là-dessus, il faut développer le réseau de transport en commun de Lyon et travailler sur les prix pour que tout le monde se rende compte que non, en fait, utiliser ma voiture, mais c'est pas du tout le moyen efficient de se déplacer, ni pour la planète, ni en termes de temps de transport. Enfin, on commence à... Par exemple, on sait que le vélo commence à être bien plus rapide que les déplacements en voiture. Donc, les gains sont immenses dans plein de domaines, que ce soit la santé, sur l'urbanisme aussi, parce que si on commence à enlever des voitures qui occupent qui sont inutilisées 95% du temps et qui utilisent plein de voies rues et le parking, là, on peut faire autre chose, quoi.
Oui, simplement sur cette zone 30 en complément, ce qu'il faut, c'est pas rejeter non plus la pollution urbaine en mettant une zone 30 dans les quartiers qui sont déjà très pollués à la périphérie. Moi, je travaille sur Vaux-en-Velin actuellement, c'est super pollué. La moitié des gens n'ont pas de voiture, mais ils sont plus pollués que partout ailleurs. Donc, il faut... Typiquement, cette mesure, c'est là où, en tant que citoyen, sans être technicien de la chose, par une démarche logique et citoyenne, c'est-à-dire prendre en compte les aspects sociaux et écologiques de toutes les mesures sur le plan climat, on peut lier le social et l'écologique et pas simplement dire on va mettre une zone 30 sur Lyon et Villeurbanne.
C'est ça, il y a les gros enjeux.
C'est pas juste un truc de bobo qui voudrait des rues piétonnes partout.
Un des rôles qu'on a, c'est d'articuler l'écologique et le social aussi dans ce plan.
C'est ça, on peut parler peut-être de la rénovation des bâtiments, puisqu'actuellement on a de...
Je propose qu'on fasse une petite pause et on continue après.
Petite pause musicale.
Tout le monde s'énerve à essayer de s'en sortir. Tout le monde s'emmerde à essayer de ressembler à tout le monde. S'énerve à essayer de s'en sortir. Tout le monde s'emmerde à essayer de ressembler à tout le monde. De toute façon, personne n'a besoin de moi aujourd'hui. Il y a des fins de mois qui n'en finissent plus, des jours qui comptent au double et se rallongent toujours plus. Il y a la mer, le soleil et les hauts fourneaux qui narguent les anciens et nous laissent dans les poumons et souffle la mer. Il y a des gens heureux que l'on croise en chemin et font peser sur nous le poids des années du déclin. Il y a des gens tristes et moi bien sûr j'insiste à leur dire ne soyez pas seuls, on est des milliers sans rien. Je ne manque de rien, tout est plein, le frigo, la cuisine et tout le home cinéma.
compte à quel point je suis vide et j'ai toujours besoin. Il n'y a pas de place pour les gens qui n'ont besoin de rien, leurs besoins ne sont pas comptables. Il n'y a pas de remède pour les gens qui sont bien, on aura beau les séduire, ils ne pitent à rien. Il n'y a pas de magasin où l'on puisse trouver le moyen d'échapper à notre condition d'humain. Il y a des biens qui ne valent rien si ce n'est qu'ils me font croire que je suis le top du citoyen moderne. Tête en avant reconnaissent pourtant bien qu'ils sont pas si malins à se donner du mal pour rien. Qui n'a pas de moyens et entouré de biens se retrouve sans rien, car il n'a pas payé la traite.
Car il n'a pas payé la traite.
À celui qui s'emboucane et crime comme un âne, c'est pour satisfaire sa femme et les enfants qu'il n'a plus de temps pour eux. À essayer de ressembler à tout le monde, s'énerve à essayer de se sortir de ce merdier.
D'écouter Dupin, tout le monde. Et on retrouve nos invités, Michel et Maxime de la coalition Climat Rhône. Donc, où nous évoquions voilà, le travail qui se fait sur le futur plan climat de la métropole de Lyon. Donc, on avait évoqué un peu la question des transports, des zones de faible émission. Et on s'apprêtait à parler aussi plus de la question bâtiment, logement et rénovation énergétique. Donc, il y a un point important. Tu évoquais aussi tout à l'heure les bailleurs sociaux qui sont rattachés à la métropole et qui...
La rénovation énergétique des bâtiments est ce qu'on appelle un gisement de réduction des gaz à effet de serre, puisqu'actuellement les bâtiments émettent une vingtaine de pourcents des CO2, et là-dessus il y a pas mal de bâtiments qui mériteraient d'être améliorés du point de vue de leur fonctionnement énergétique et réduire leurs émissions de CO2, à la fois pour des raisons écologiques et pour des raisons sociales, parce que cette charge d'énergie, c'est aussi des charges locatives, etc.
Et ça, c'est une question importante, et je pense que c'est vraiment aussi par le mouvement citoyen qu'on peut dire le climat, c'est pas quelque chose pour les riches, il y a vraiment la notion de justice sociale aussi.
De justice sociale, tout à fait. Nous, on utilise deux objectifs, l'urgence climatique et justice climatique. Donc c'est tout à fait ce qui est au cœur de la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a des choses qui ont été faites dans le plan en cours. Il y a eu une réduction des émissions, il y a eu beaucoup de bâtiments traités, mais par exemple, des partenaires du plan climat, comme un grand bailleur de la métropole, Lyon Métropole Habitat, avec qui on a travaillé, sont d'accord qu'il faut deux choses. Accélérer les financements par une agence publique qui relayerait toutes les sources de financement possibles et qui s'entendrait avec les bailleurs ou les copropriétaires pour les aider à financer leur rénovation.
Oui, parce qu'il y a aussi les propriétaires privés qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, surtout quand ils ont ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Oui. Et eux, voilà, il faut aussi qu'il y ait des financements
là,
pour...
Autant ça a avancé un peu dans le logement social, autant c'est très en retard, justement, dans ce qu'on appelle les copropriétés souvent un peu dégradées, ou lesquelles, là, les situations énergétiques sont catastrophiques. Donc, accélérer le financement, faciliter l'accès au financement des bailleurs sociaux et des copropriétaires lorsque la question se pose en termes financiers. Et puis, à partir de ce qui a été fait avec notamment EcoRénov, etc., changer d'échelle là aussi dans l'accompagnement des associations de locataires, des bailleurs, des propriétaires privés, etc., de façon à améliorer améliorer le financement et réduire les coûts et mieux accompagner les bailleurs sociaux, les habitants, etc. Donc là, il y a là, en tant que citoyen, on réclame effectivement, et on n'est pas tout seul, puisque un bailleur social comme Lyon Métropole Habitat nous appuie là-dedans, on doit rencontrer la métropole là-dessus bientôt. Là, c'est là où on rencontre à la fois le travail citoyen et le travail un peu plus technique avec les gens qui s'occupent de ces questions-là.
Et justement aussi dans cette action citoyenne, est-ce que là, vous arrivez à parler à la métropole, à veiller au grain sur c'est bien gentil de faire un plan, j'interdis ça, je dis qu'il faut aller jusque-là, mais est-ce que je mets les sous et les moyens qu'il faut pour y arriver ?
La double question, la question de l'inscription dans le plan, c'est-à-dire accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, ça on va y veiller, on va se battre là, ça dépend aussi des élus, parce que c'est eux qui votent les budgets, etc., et ça dépend des élus, des citoyens, et après, dans le comité de suivi, voir si effectivement les choses sont réalisées. Donc le travail citoyen, c'est aussi la vigilance sur le respect des... faire évoluer les engagements comme on le souhaite, et après, c'est surveiller la réalisation des engagements.
Oui, parce qu'on sait en plus que les finances des collectivités ne sont pas extensibles, donc ça veut aussi dire à un moment, ce que je mets là, c'est que je fais des choix, mais pas ailleurs. Mais
c'est là où on rencontre la troisième dimension, qui est la dimension politique.
Et je pense que ce plan climat, en fait, c'est un document politique d'ambition qui donne le cap de la métropole. Ce n'est absolument pas là où est déterminé le budget. Le budget de la métropole est décidé tous les ans, et c'est là où il faut être vigilant et apporter des choses. Après, sur la question de réattribution des budgets, puisqu'il faut bien aller récupérer l'argent ailleurs, c'est là où le plan climat, enfin, vu l'urgence actuelle, et c'est quelque chose de très concret, on a beaucoup parlé de situation internationale de plus de degrés, mais c'est des conséquences aussi sur le territoire, que ça soit en termes de crues, de canicules, de l'appareil du moustique tigre dans notre région, de l'ambroisie qui commence à être de plus en plus prégnante, la pollution de l'air, il va y avoir des effondrements de bâtiments prochainement, il va y avoir des risques, enfin les risques agricoles, les risques sur les productions de vin, enfin il y a des choses très concrètes qui vont se passer sur le territoire, ça la métropole en est consciente, ces chiffres et ces informations on les tire de leurs propres documents, et maintenant il faut que cette information elle se diffuse et que tout le monde en soit imprégné pour se rendre compte que le plan climat c'est plus un petit document qu'on laisse dans un coin pour faire bien, il faut que ça devienne l'élément de politique centrale qui régit toutes les politiques de la métropole. Chaque action de la métropole doit être regardée en cohérence avec ce plan climat. Et c'est là où il faut qu'il y ait ce changement, et c'est là où on appelle à une rupture de mentalité. C'est que maintenant, l'urgence est telle qu'il faut complètement changer sa vision des choses.
C'est une des critiques qu'on a fait en tant que coalition climat au plan en cours, là jusqu'à fin 2019, c'est qu'effectivement, le plan de la métropole avec notre ancien président de métropolisation, etc., ne tenait pas compte des engagements, y compris sur le plan climat. C'est-à-dire qu'on avait dénoncé, on avait mis en évidence le fait que, contrairement à ce qu'on souhaite, ce que vient d'exprimer Maxime, l'action de la métropole était dyslexique, avec d'un côté le plan climat, de l'autre côté, une politique économique qui ne prenait pas assez en compte la question climat. Il faut que cette question-là devienne, effectivement, à tous les niveaux des territoires nationaux, locaux, etc., l'élément déterminant, un axe majeur des politiques publiques. Et ça, là-dessus, c'est vraiment une question citoyenne et politique. Et là-dessus, moi, je dis, en tant que militant politique, je suis désolé, catastrophé, parce que les forces politiques de gauche sont complètement à la ramasse là-dessus. Il y a une avancée du côté citoyen, mais du côté des engagements politiques, on est à la ramasse.
Tu parlais de cette dyslexie. Il y a des priorités, si elles changent. On parlait, enfin, c'était pendant la pause musicale, de désinvestissement. Ben, en tant que citoyen, mais aussi également en tant que contribuable, c'est, voilà, je ne veux plus que l'argent, qui est aussi mon argent de la métropole, serve à ça ou aide des actions qui vont à l'encontre.
C'est l'argent de tous les
de
acteurs.
La lutte contre le changement climatique.
Enfin, par exemple, il y a TAC qui a des campagnes en cours sur l'utilisation du livret A ou du livret de solidarité, où l'argent finalement qui est placé sur ces livrets est utilisé par les banques pour des projets pétroliers ou même par la Caisse des dépôts et consignations sur d'autres projets. Et il y a plein d'acteurs, donc les banques, qui sont aussi visées parce qu'ils financent des projets sales partout dans le monde. Et là-dessus, il y a un engagement à faire. Et du coup, la métropole doit aussi réinterroger l'utilisation de son propre financement. Et ça, c'était une des victoires aussi suite à la première mobilisation, puisque la métropole a voté un vœu de désinvestissement des énergies fossiles. Donc, elle a... Donc là, un vœu, c'est pas forcément très engageant, mais après, nous, on a discuté avec la métropole. Pour ça, ils sont en train d'essayer de faire une cartographie de où est leur argent et est-ce que ça finance des projets pétroliers ou pas. Et du coup, comment changer ça? Et donc pareil, ben, faut qu'ils construisent, faut qu'il y ait des changements pour pas que cet argent public qui est en stagnation serve à financer des projets pétroliers.
Ça, ça montre la multifacette des actions, y compris citoyennes, sur une question comme les énergies fossiles, sur les bâtiments. Tout est... Et c'est là où il y a... Nous, on appelle à mobilisation très large, parce qu'effectivement, il y a un travail énorme à faire.
Oui, on pourrait évoquer aussi l'anneau des sciences par rapport à la question du transport dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est où on met son...
La commission demande effectivement l'arrêt de l'anneau des sciences. Mais je sais pas si...
C'est là où on voit le manque de cohérence, parce que pendant le même conseil métropolitain, on a voté ce vote des investissements des énergies fossiles et on a voté une nouvelle étude pour l'anneau des sciences. Donc, on investit à nouveau une étude sur un projet pétrolier. Donc, c'est assez paradoxal et c'est là où on parlait de ce manque de cohérence et oui, d'avoir une vision beaucoup plus globale.
Et effectivement, c'est une vigilance, une lutte de tous les instants... Justement, en parlant d'instant, vous évoquiez tout à l'heure un calendrier que vous aviez du mal à connaître, parce que quand même 2020, c'est demain, quasiment. Donc est-ce que ça avance?
Ouais, alors il faut voir qu'il y avait un calendrier qui s'était défini. On était sur... il devait y avoir un premier vote un peu consultatif en mars de la métropole sur un projet de nouveau plan climat, avec plutôt les actions de la métropole, les nouveaux objectifs. Et ensuite, il y aurait un vote final en octobre-novembre 2019, du coup, où là, on aurait consulté toutes les entreprises qui auront pu ajouter leurs actions de réduction de gaz à effet de serre, et on aurait pu avoir une signature de la métropole et de tous les partenaires. Là, clairement, la coalition et les mobilisations citoyennes ont été bouleversées, ce calendrier, puisqu'on s'est dit, bah non, on ne veut pas repartir dans cette dynamique de reproduction du précédent plan. On veut des changements, on veut rediscuter du cadre, on veut discuter des ambitions et des propositions dedans. Donc là, la métropole est en train de réajuster pour ouvrir des nouvelles fenêtres politiques. Donc, a priori, donc ils vont lancer déjà un premier événement le 13 décembre qui va être plutôt montrer que la concertation et l'implication des citoyens a été prise en compte. Donc ils vont faire des annonces autour de comment ils comptent faire des plans de sensibilisation, comment ils comptent mettre en action les citoyens. Ils vont présenter aussi les documents qu'ils ont avancés et ils vont présenter le prochain travail à venir, c'est-à-dire la concertation et les débats politiques qui s'ouvriront sûrement aussi aux alentours de mars avec les partis politiques sur le sujet de qu'est-ce qu'on veut et quelle ambition on veut autour du plan climat. Et ça va ouvrir toutes les discussions avec tous les partenaires, donc que ça soit les entreprises, les collectivités. Et la nouveauté, c'est que les associations seront aussi présentes, donc a priori dans des ateliers qui auront lieu au printemps. Et là, pour l'instant, la métropole est en construction et en réflexion de ces événements. Là, on parle de choses qui nous ont été annoncées il y a 3 semaines et qui sont en réaction de la mobilisation. Donc il y a encore beaucoup de choses à construire et le détail n'est pas encore fait, quoi.
Et par exemple, on espère que la métropole va éviter ce qu'a fait Lyon, c'est-à-dire une pseudo-consultation par Internet, etc., qui nous intéresse pas, parce que c'est pas là où on peut... Alors, qui est, comme on disait tout à l'heure, des campagnes d'information et de mobilisation, ok, ça y est, très bien.
Mais en gros, c'est la moindre des choses qu'on peut attendre.
C'est la moindre des choses qu'on peut attendre d'un organisme public comme la métropole sur cette opération-là. Quitte à ce qu'on participe aussi, toujours sans se faire bloquer, des idées sur des actions, etc., de communication. Bref, mais il faut un véritable espace de travail. Ce qu'on espère avec ces 4 ateliers qu'annonce la métropole. Mais ça, c'est pas gagné, parce que qu'est-ce que vont être ces 4 ateliers? Pour arriver, moi j'avais déjà discuté un peu avec Bruno Charles, pour que ça soit effectivement des espaces de travail. Effectivement, il faut qu'on fasse... Ils attendent des propositions, y compris sur la méthode de travail. Bon, je ne sais pas si on va les faire, parce que c'est un peu ambigu, mais... En tout cas, on va être vigilants sur les propositions et on va les contester. Parallèlement, Enfin, moi, c'est ce que je défends, c'est qu'il y a des idées de la coalition. On évoquait tout à l'heure le bâtiment ou l'alimentation, ce sont celles que je connais le mieux. Ces idées-là, il faut continuer à les travailler avec les services, parce que c'est aussi les services qui rédigent le plan climat. Donc il faut convaincre les services que ce qu'on propose nous, ça peut se transformer en proposition concrète dans le plan climat.
Oui. Alors, bah, les ateliers là, qui vont avoir lieu, c'est une chose, mais de toute façon, la coalition continue à travailler elle-même. Sur ces propositions ou sur de la mobilisation citoyenne coalition.
C'est là où il va falloir. Enfin, il y a cette notion encore de calendrier quand même. Enfin, justement, on est sur des échéances très courtes quand même. Enfin, là, pour avoir un espace suffisant de discussion et de travail de proposition, on va être sur a priori 4 réunions avec les collectivités, donc sur une journée. Enfin, pour un plan climat qui va être voté en novembre. Donc là, ce qu'il va avoir besoin aussi, c'est que les acteurs associatifs, et c'est pas que ceux qui sont présents dans la coalition climat, c'est que tout le monde vienne autour de la table avec ses propositions et avec son expertise pour aller convaincre la métropole, les collectivités et les entreprises. Et donc il va vraiment y avoir besoin d'un travail d'expertise de fond pour aller convaincre les gens et aussi de pouvoir avoir ce rôle de vigilance autour du cadre de ces discussions et un besoin de, au moins qu'il y ait un front uni d'associations qui puissent dire bah là le cadre ça nous plaît, ça va, on trouve notre position ou pas du tout, et de pouvoir à nouveau jouer sur le rapport de force. Donc là on invite toutes les associations à commencer à se renseigner sur qu'est-ce qui va se passer et comment elles peuvent s'inclure dans le processus, et pourquoi pas enfin à nous contacter pour qu'on discute ensemble de la même manière. Nos documents qu'on a écrits, ce sont des propositions qui sont encore en cours et qu'on va continuer de travailler le plus possible pour arriver à des choses abouties et qui vont permettre de convaincre tout le monde autour de la table. Donc il y a encore beaucoup de travail à amener, et donc nous on invite tout le monde à venir participer au sein de la coalition climat et à participer avec la métropole.
Et au sein de la coalition climat, vous avez des prochains rendez-vous, vous avez des modes de travail?
On va se revoir le 13 décembre, parce que c'est là où il va falloir décider de comment on réagit par rapport aux propositions de la métropole le 13.
La posture. Ouais, et dans les prochains rendez-vous, là c'est pas la coalition climat spécialement, mais il va y avoir une nouvelle mobilisation le 8 décembre.
On va en dire un mot maintenant.
Donc qui est la continuité de ce qui s'est fait le 8 septembre, le 13 octobre, et donc là le 8 décembre avec ce contexte particulier que ce sera la fête des Lumières à Lyon. Donc les organisateurs, c'est des gens des organisations, mais surtout beaucoup de citoyens. Il y a pas mal de bénévoles qui s'impliquent pour organiser cet événement. On va voir quelle résonance il y a. Comme d'habitude, on va travailler sur des formats innovants avec des cibles différentes. Notamment, ça sera en plein pendant la COP. Donc forcément, il y aura des attentions particulières sur ce que devraient faire les États. Et le but, c'est que ces mobilisations alimentent toujours le rapport de force pour continuer les discussions avec les métropoles sur un pied d'égalité et qu'on soit entendu.
C'est secret surprise ou quelle forme vont prendre, comment s'y associer?
Il va y avoir pas mal de choses. En tout cas, il va y avoir une mobilisation le samedi matin, a priori. Donc là, on est en discussion avec la préfecture pour avoir les autorisations. Le dossier a été déposé, tout ça. Donc maintenant, on va attendre de voir s'ils nous opposent un refus. Et dans ce cas-là, il y aura des réactions aussi, puisque sur cette journée symbolique qui est la fête des Lumières, qui est la journée des Lyonnais, on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas le droit de s'exprimer le matin sur cette question climatique.
Et on pourra avoir des infos, par exemple, quand vous aurez les autorisations, on pourra les trouver.
Ces mobilisations citoyennes, elles ont utilisé beaucoup les réseaux sociaux, donc dessus, on a un événement. Ça circule à travers les organisations par des mails qui sont renvoyés. Et sur Facebook, du coup, l'événement, c'est plus qu'une fête des Lumières à Lyon. Et donc, on trouve toutes les informations dessus. Et voilà, il y aura vraiment le détail, le point de rendez-vous, les animations qui vont être prévues. Et on appelle aussi chaque citoyen à venir s'engager et à donner du temps. Et aussi les associations, parce que là, ce qu'on aimerait bien mettre en valeur, c'est aussi des associations qui puissent venir tenir des stands, parler aux citoyens pour construire cette société civile organisée qui peut réagir autour du climat. Voilà un peu les enjeux et les prochains rendez-vous. Et ensuite, on verra comment ça se continue aussi l'année prochaine.
Et puis j'imagine, parce que on a parlé d'Alternativa, il peut y avoir aussi des rendez-vous aussi plus...
Là, il y a le travail des associations en général qui continue. Donc,
association, la coalition ne monopolise pas l'action. Chaque association doit continuer son travail.
C'est ça. La coalition est dans un rôle de plaidoyer. Et ensuite,
de coordination, c'est ça. Un petit peu. on est reconnu comme un espace, un intermédiaire de dialogue avec par la métropole, mais nous, on est loin de tout faire. Au contraire, on appelle tout le monde à se mobiliser. Chaque association a des propositions, chaque association a des modes d'intervention, etc. C'est tout ça qu'il faut rassembler.
C'est ça. Et c'est ça qui fait du poids au final, parce qu'il y a de la diversité d'actions.
Il faut rassembler dans un bouquet citoyen. Et j'espère un peu plus politique, j'espère qu'on arrivera à faire bouger les organisations politiques, y compris avoir un vrai débat avec les élus par rapport justement aux votes qui vont être obligés d'amener fin 2019.
Ah, bien sûr, il va y avoir un positionnement, et faut aussi entendre le positionnement sur les élections qui vont arriver, puisqu'on va voter un document plan climat fin 2019, et en janvier 2020 s'ouvre la campagne politique. Et donc là, un des objets de la campagne, ça va être de les questionner. Est-ce que vous allez respecter ce qui est écrit dans le plan climat? Est-ce que vous vous y engagez, et ce, dès votre premier budget? Et ça sera, je pense, aux associatifs et aux partis et aux syndicats d'aller soulever cette question pendant les élections aussi.
Oui, ce que vous disiez, c'est que même en militant pour être associé au plan climat, ça n'empêche complètement pas d'avoir l'interpellation des élus, quels qu'ils soient.
Totalement, totalement.
Et on le voit. À la fois sur le suivi, puis même sur le contenu.
Ils peuvent l'écarter, ce document, et dire on ne le suit pas. Alors certes, on dira c'est pas bien, vous respectez pas ce que vous avez écrit, mais ils sont au pouvoir, et c'est l'enjeu des élections.
Même s'ils le respectent, il y aura des retards, il y aura
aussi
des choses comme ça. Donc il faut vraiment qu'on soit en vigilance permanente. Quoi. Y compris pour continuer à travailler les propositions qui ont été inscrites. Tout à l'heure, on évoquait par exemple la zone 30 pour améliorer son fonctionnement, pour qu'il y ait des mesures complémentaires.
Il faut voir, voilà, le plan climat, c'est un document très général quand même, très haut niveau. Et ensuite, il y a beaucoup de constructions à faire avec tous les acteurs. Et à nouveau, il ne faut pas penser juste au centre urbain Lyon-Villeurbanne. Il y a toutes les mairies de la métropole. Enfin, on est sur 59 communes.
J'étais en réunion à la mairie de Vaux-en-Velin aujourd'hui pour des questions d'alimentation. La mairie de Vaux-en-Velin est en train de faire un plan climat qui est intéressant.
Par exemple, sur l'alimentation, ça peut prendre quelle forme? Par exemple, les cantines ou...
Alors, on a proposé deux choses majeures. Parmi d'autres, mais ça n'a pas été complètement repris tel quel dans le document, dans le manifeste, c'est développer des filières de proximité, c'est-à-dire changer d'échelle par rapport à tout ce qui se fait avec les circuits courts, etc., qu'il faut développer. Mais il faut aussi que la métropole prenne les moyens, les municipalités, de changer d'échelle pour davantage de produits accessibles dans les quartiers populaires. Ce qui actuellement, et nous on travaille sur Vaux-en-Velin, par exemple, c'est un désert de mauvaise nourriture. Les habitants de Vaux-en-Velin, la majorité, n'ont pas accès à une nourriture satisfaisante, notamment par des questions d'offre. On va pas changer les revenus des gens, mais il y a beaucoup de travail à faire sur l'offre. Donc ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est effectivement dans les cantines, qui est un lieu important en termes de quantité consommée et puis de zones d'éducation, c'est modifier progressivement les pratiques alimentaires avec plus de bio, plus de local et moins de produits carnés. Donc c'est un éventail, on n'a pas fixé des volumes au départ, mais là aussi, ça sera un travail continu. C'est difficile, c'est un objectif, parce qu'il y a des municipalités qui sont déjà relativement en avance, d'autres qui sont très en retard, donc il faut, là aussi, il y aura un travail citoyen dans les cantines, etc.
Il faut accompagner tout le monde, mais c'est un changement de culture surtout qui est visé, et qui derrière, là on parle des cantines, donc on pose aux enfants, mais il y a les cantines de fonctionnaires, il y a les cantines d'entreprises aussi qui peuvent prendre ces actions. Quoi.
Alors, on est plutôt centré sur les cantines publiques, mais il y a aussi tout le privé, etc. Donc là, il y a un chantier énorme, multifacette, sur lequel on a besoin, non pas seulement des associations, mais des habitants. Il faut que les habitants se saisissent de cette question par leur comportement, par leur mobilisation citoyenne en tant que dans les assos, dans les groupes locaux, etc. Il faut vraiment que ça devienne, on dit il faut que ça devienne une priorité politique, mais il faut aussi que ça soit une priorité de la vie citoyenne.
Et quand tu parles priorité politique, on parle campagne, c'est je vois votre programme, est-ce que c'est dedans?
Bien sûr, je pense qu'il faudra s'y interroger. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour parler de ces campagnes, mais nous, c'est des choses qui vont se préparer. Et le travail qu'on fait actuellement pourra resservir sous de multiples facettes pendant ces campagnes, pour voir si les engagements que proposent les partis sont satisfaisants ou pas.
Mais de toute façon, il servira tout le long. Enfin, faut, on parlait oui. calendrier, il ne faut pas voir en novembre, on va signer le plan et tout est terminé.
C'est ça.
Comme je disais, là, il va falloir travailler sur les cantines, ce ne sera pas réglé, ce sera pas réglé dans un an. Donc ça va se poursuivre le long de...
Et c'est, on disait, voilà, c'est un changement de tous les pans de notre société. Donc c'est des changements majeurs sur lesquels il faut que tout le monde intervienne.
Est-ce que vous avez d'ailleurs eu une discussion sur l'après, on parlait du suivi, c'est-à-dire des instances avec des citoyens, avec un rendu compte régulier?
Nous, on a essayé d'imposer l'idée d'un comité de proposition et de suivi qui a pas été vraiment accepté, qui n'est pas d'ailleurs très fonctionnel pour l'instant. Mais il faudra qu'à la fin du plan, quand le plan climat sera signé, il y ait un véritable comité citoyen qui se mette en place pour être vigilant par rapport à tout ce qui se fait.
Il faudra porter et le construire. Mais...
Il faudra continuer ce qu'on disait sur les cantines. Ça voudra dire qu'il faut que les citoyens soient constamment... pas constamment, pas tous les jours, mais qui a une force permanente de propositions pour qu'on change les menus dans les cantines vers plus de bio, plus de local et moins de produits carnés. Quoi. Faut que ça devienne le quotidien, enfin le quotidien au sens large, des associations, des habitants, etc.
Oui, c'est qu'est-ce que vous faites manger à mes enfants?
C'est ça,
et
mais
vous le voir sur ce sens-là.
C'est ça.
Et...
Mais les collectifs de parents d'élèves ont par exemple des grands enjeux. Il y en a qui se bougent fortement sur le sujet. Enfin, j'en connais à la Croix-Rousse. Et voilà, ça, c'est des sujets qui avancent, mais maintenant, il faut que ça se généralise et que ça devienne une habitude pour tous. Quoi.
Qu'on termine avec un petit morceau de musique et on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Et on suivra ça de près. Et a priori, rendez-vous le 8 décembre. Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.